porter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Le fait de reprendre le but et objet de notre association pour une constituante, eh bien, je suis contente car quelques auditeurs ont réagi. Et pour moi, c'est rassurant que vous m'écoutiez, bien sûr, mais aussi que vous vous sentiez concernés par le sujet de la Constitution, de notre avenir politique, de notre démocratie. J'ai décidé de vous lire en partie la réflexion de Bernard, un de mes auditeurs, et je le remercie. Tes propos, cher Bernard, alimenteront en partie une réponse possible d'aujourd'hui. Moi qui voulais justement revenir sur le vote, le suffrage universel, car deux autres auditeurs ont également réagi à ce sujet, mais aussi avec un questionnement pertinent. Je vous le lis. Pourquoi à l'école primaire, on initie les enfants à la politique en leur proposant de mettre en place un conseil municipal d'enfants, alors que par la suite des apprentissages, il n'y a plus d'initiation ou de formation à la chose, comme il dit, la chose politique.
Il a raison de parler de chose politique, puisque c'est res publica, la chose publique.
Ah oui, c'est dans ce sens-là. Ben, tu fais bien de me le dire, parce que toi, je n'avais pas... Voilà. Donc, merci, cher auditeur. Donc, je reprends les remarques et les commentaires de notre cher Bernard concernant notre projet de proposition d'une assemblée constituante, et voici ses propos. Il me dit: les obstacles ne manqueront pas de se dresser sur votre route, de notre projet de former une assemblée constituante. Les puissants qui veillent à canaliser le peuple et qui sont aux manettes disposent de moyens d'une puissance tout autre, à commencer par les moyens de communication, les médias. Il me dit, et quelques encouragements, j'avoue, ne font pas de mal, qu'il est d'accord sur mes propos. Et même, il me complimente sur l'analyse de mon intervention sur Radio Doc, et sur lesquelles il me dit qu'il est quasi entièrement d'accord pour tous les très nombreux dysfonctionnements que j'évoque à différents niveaux du pays. Impulsé par l'exécutif, il dit, largement appuyé par les institutions sur lesquelles il conviendrait un jour de se pencher en tous les cas sur le processus de nomination ainsi que sur celui de l'élection des dix représentants du peuple. T'as pas tort. Passer par l'élection d'une assemblée constituante, comme tu le préconises, là c'est Bernard qui le dit, à plusieurs reprises, est à mon sens à remiser immédiatement aux oubliettes. Oups, Bernard, je ne le ferai pas pour l'instant, car laisse-moi encore juste un peu de temps et d'action. On ne sait jamais. Il me dit que ce serait l'assurance de la continuité de ce que tu dénonces à juste titre dans ton exposé à plusieurs reprises. Ce serait encore continuer à accorder la tête d'affiche, ouvrir tout grand la porte aux sempiternels, même politiciens, professionnels de la politique, parfois véreux, et leur parti avec leurs idées et leurs pratiques éculées. Il faut revenir aux méthodes de l'Athènes du 5e siècle de notre ère. Tu applaudis, Bernard. Un tirage au sort intégral, ce qui était le cas de la petite Athènes, pour tenter de forcer déjà un possible retour vers la démocratie et commencer à abandonner la planche pourrie sur laquelle s'exerce, se déroule et s'étend la vie politique de ce pays. Le tirage au sort intégral est déjà ce qui se pratique pour les juridictions d'assises. Les jurés ne sont pas des spécialistes de la justice, pas plus que le seraient les constituants tirés au sort. Les jurés sont encadrés par une équipe rompue à l'exercice de la justice, juges et assesseurs. que je sache. Peu de scandales qui me soient connus, occasionnés par la défaillance d'un juré tiré au sort, en raison pour incompétence ou autre raison d'ailleurs. Qu'est-ce qui interdirait une pratique identique dans le cas d'une constitution ? Un encadrement par une équipe universitaire de constitutionnalistes neutres ? Un tirage au sort serait l'assurance d'un changement de cap vers une véritable orientation démocratique. Le commencement de la disparition de la planche pourrie sur laquelle se meut, se développe actuellement la politique. Bis. Ceci étant, je suis extrêmement favorable à une refonte totale de la Constitution, ne serait-ce que pour atténuer les pleins pouvoirs exorbitants que s'attribue Sa Majesté. Je continue, donc ce que m'écrit Bernard, avec son deuxième point. Alors, il dit, toujours en admettant qu'un projet de nouvelle constitution soit rédigé, validé par des constitutionnalistes, avant qu'ils ne franchissent les infranchissables obstacles dressés par l'exécutif, les institutions, nos prétendus représentants, tous se déchaîneront contre cette utopie sorti du tréfonds de la tête des gueux. Tous les médias sur le pont, médias subventionnés par l'impôt bien sûr, propriété des milliardaires, se joindront à la Lali afin que soit enterré au plus tôt ce projet subversif, populacier et utopique. Comme en 2005, le peuple, malgré le pilonnage médiatique, aurait-il eu un sursaut ? Serait-il en mesure de séparer le bon grain de l'ivraie ? Enfin, bouquet final de Bernard pour une troisième réflexion et pour essayer de tempérer mes ardeurs dans ce projet de constituante, il rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue que nous ne sommes plus maîtres chez nous. Dans notre propre pays, nous dépendons d'instances supranationales qui savent mieux que les peuples eux-mêmes, ce qui leur convient, ce qui est bon pour eux. Notre exécutif défaille, ne maîtrise plus rien. Il a choisi. Les Maastrichtiens aussi l'ont choisi. Voilà un peu plus de 30 ans que nous en suons au quotidien. Nos représentants ne représentent quasiment plus qu'eux-mêmes, avec toute la caste d'oligarques qui les a propulsés là où ils se trouvent. L'exécutif ne maîtrise plus rien. Pour la faible part restante du peu qu'il reste encore de ce pays, nous sommes tributaires, à la merci, des bons vouloirs de la Commission européenne, bien sûr. Je rajoute, c'est moi-même parce que tu as mis, Bernard, la Commission, mais européenne. Nos chefs d'État successifs de traité en traité, d'abandon successif en traîtrise, ont tous contribué à assurer le transfert de compétences en direction de l'Union européenne. Tout ceci pour en arriver à la conclusion suivante, tant que nous resterons prisonniers, enclavés sous cet écrasant carcan dans lequel nous a fourré l'histrion de service de l'époque, contre l'avis majoritaire d'un peuple, tant que nous ne prendrons pas conscience collectivement que la seule issue prioritaire et salutaire pour retrouver autonomie, souveraineté, avec un choix total de liberté d'action nationale, pour se dépêtrer du marigot dans lequel nous sommes embourbés, il nous rappelle l'article 1, alinéa 6, concernant donc la Constitution européenne, la conformité à la Constitution du principe de primauté du droit de l'Union. La Constitution et le droit adoptés par les institutions de l'Union dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées priment sur le droit des États membres. Suffisamment édifiant ou pas ? Avec 18 ans de recul, la relecture attentive de ce torchon est révélatrice soit de l'approximation des rédacteurs, soit plutôt de la volonté d'anesthésier l'attention du citoyen électeur pour faire passer la pilule. Ce préambule pour l'Europe n'est qu'une suite de mensonges, d'un gigantisme invraisemblable, une description idyllique, fantasmatique, une hagiographie mensongère, infondée, un catalogue d'inepties sans fondement. Une grossière erreur de prospective due à des croyances oniriques, soit à une volonté délibérée de tromper les lecteurs, soit à l'incompétence des élites. Il conclut, eh bien, en me disant, je conclus, à une association des trois. Voilà. Donc, les inepties, une grossière erreur, hein, donc soit par croyance onirique, volonté délibérée de tromper les lecteurs, ou l'incompétence des élites. Voilà. Merci Bernard. Merci Bernard d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout et de partager ta pensée. Ma pensée. Nous nous retrouvons sur de nombreux points. Et j'espère que nous pourrons nous retrouver un de ces quatre pour en reparler de vive voix. Je l'espère, au sein d'une rencontre et pourquoi pas d'un groupe local formé enfin sur Moissac. Ton texte est argumenté jusqu'au bout avec un beau vocabulaire. Et ta proposition finale est de « larguer les amarres, une unique solution » en interrogation. Qui en est conscient? Qui est prêt? Mais moi, je me pose la question « prêt à quoi ?» Alors, avant de faire ma réponse à notre auditeur Bernard, je vais vous laisser avec une chanson de François Béranger, « My Goy Blues ».
Oui, et moi, je voudrais juste rajouter avant que pour alimenter sa volonté de tirage au sort et non d'élection, auquel cas je le suis complètement, je pense qu'il a parfaitement raison, je citerai l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat qui a été tirée au sort, qui étaient des gens donc qui n'avaient pas de formation particulière et quand même dont les décisions devaient être prises. C'était quoi le terme de ma crotte?
Il considérerait les propositions comme si c'était du acquis presque.
Voilà, hein, c'est voilà. Ça, oui, et chose voilà. Qu'il n'a pas faite, bien
non,
sûr.
Non, bien sûr.
Mais, et on a vu ce qui est sorti de cette convention citoyenne pour le climat avec des membres uniquement tirés au sort, je le rappelle. Et bien, c'était un travail vraiment ultra pro et avec des décisions qui vraiment valaient la peine. Hélas, elles n'ont pas été...
Eh bien, la deuxième partie, ce sera justement sur ce sujet.
Voilà. Allez, on part avec François Béranger. Magouille Blues. Bon, c'est plus d'actualité parce que ce titre date de 1974. Ah oui. Et donc, c'était encore des élections présidentielles tous les 7 ans.
Voilà, mais maintenant c'est tous les 5 ans, mais voilà. Quelque part, la réalité de l'actualité est encore bien présente.
Vous comprendrez bien les paroles.
Les 7 ans et même parfois avant, on a droit au grand carnaval. Au carnaval de la magouille, au grand défilé des embrouilles. C'est tellement pitonnant que ça en devient consternant. Thank you. des arguments de bazar. Français, françaises, soyez réalistes, gaffe aux socialo-communistes. C'est là qu'est le plus grand danger pour notre vieux pays traumatisé. Zézé.
Après la lecture du texte de Bernard, d'une réponse par rapport à ma dernière chronique qui parlait plutôt du but et de l'objet de notre association pour une constituante, donc je voulais vous en faire part, et lui en faire part aussi, car il y a en effet deux sujets dans cette réflexion, qui est même encore un peu plus long que ce que je viens de vous lire précédemment. Le premier est celui du vote, de la remise en cause, donc du suffrage universel. Et la deuxième réflexion est la problématique de l'Europe. Donc, je vais reprendre, et là, ma réponse n'engage que moi. Je dis bien ma réponse. Le vote par suffrage universel et le tirage au sort, qui sont deux méthodes différentes de participation des citoyens à la prise de décision politique, leur pertinence cependant dépend du contexte et des objectifs spécifiques d'un système politique. Un vrai devoir que tu m'as imposé là, Bernard. Il pourra servir à notre réflexion et à une réflexion collective. J'en profite aussi pour dire au président de notre association, André Bellon, que je donne enfin une réponse sur un sujet maintes fois abordé et sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à me placer. Là, je pense que j'y suis arrivée, même si ça peut paraître pas encore très clair sur certains points. Alors je reviens quand même sur le suffrage universel, qui permet à tous les citoyens d'exprimer leur volonté de participer activement au processus politique. C'est une légitimité démocratique qui est généralement considérée comme un pilier de la démocratie représentative, ce qui mène à la responsabilité des élus devant les électeurs qui devraient rendre compte de leur action, je dis bien qu'ils devraient, hein, rendre compte de leur action, car les citoyens ont la possibilité de choisir leurs représentants en fonction de leurs préférences politiques. Mais voilà, le suffrage universel peut conduire à une polarisation politique. Aujourd'hui, les électeurs se regroupent autour de positions politiques. Plus ça va et plus ils sont mal représentés. Les citoyens, les électeurs, ne leur font plus confiance et finissent par ne plus s'engager dans ce fameux processus politique. D'où le faible taux de participation électorale, ce qui signifie que de nombreux citoyens ne sont pas activement engagés dans la cause commune à cause de querelles politiques et de pouvoir. Donc, nous pourrions penser que le tirage au sort serait une solution qui pourrait garantir une représentation équitable. Cela pourrait bien sûr réduire les inégalités et les biais dans la représentation. Enfin, les citoyens tirés au sort pourraient être impliqués dans les processus délibératifs, ce qui pourrait favoriser une prise de décision plus réfléchie, plus utile aux besoins de la population, moins politique, donc moins sujette aux pressions partisanes politiciennes. Mais, une fois de plus, car il y a aussi un mais, le tirage au sort pourrait soulever des questions de légitimité. Car on oublie que les représentants ne sont pas élus directement par les citoyens. Et cela peut être perçu aussi d'une attitude antidémocratique. Les représentants tirés au sort pourraient ne pas se sentir responsables devant le public que les élus élus, car ils n'ont pas cherché à être élus. Alors, vous comprenez bien que pour tenir les propos, j'ai cherché à mieux comprendre le système judiciaire donc, qui est mis en comparaison par Bernard et par beaucoup, finalement. J'ai essayé donc de mettre en comparaison le tirage au sort des jurés. Alors, je me suis renseignée auprès de deux avocats de Montauban. Alors, vous me direz, deux, c'est peut-être pas beaucoup. Peut-être j'aurais pu trouver davantage d'avocats pour avoir une autre réponse, même ailleurs qu'en Occitanie. Mais enfin, pour mieux comprendre, je leur ai posé la question. En réponse, eh bien, figurez-vous, beaucoup de citoyens refusent cette responsabilité d'être présents et de décider pour un procès. Et ils ont le droit.
Non, ils ont le droit uniquement pour raison médicale. Il faut vraiment monter un dossier pour pouvoir refuser.
Mais c'est faisable.
C'est très difficilement faisable. Contrairement à ce que t'ont dit les avocats, j'ai moi-même deux personnes que je connais qui ont été tirées au sort comme jurés et qui ont voulu se faufiler et qui n'y ont pas réussi. Et pourtant, ce n'est pas des idiots. Donc vraiment, la principale raison, c'est les raisons médicales. Et après, il y a d'autres raisons. C'est si on s'occupe de quelqu'un qui a Alzheimer, des trucs comme ça, voilà. Et donc, ça impose la présence.
En tous les cas, moi, j'ai eu une réponse. Elle nous satisfait pas, peu importe. En tous les cas, c'est très difficile. Et parfois même, de trouver le nombre de jurés pour certains procès.
Non, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est des mensonges racontés. Je tiens à dire que si beaucoup de jurés ne participent pas, c'est parce qu'ils sont récusés. Chaque avocat, que ce soit l'avocat de la défense ou le procureur, enfin, si c'est les assises, donc oui, le procureur, l'avocat général, dans ce cas-là, pardon, puisque le procureur, c'est quand on est en dessous. Mais eux ont un pouvoir de récusation des jurés, c'est-à-dire que avant même, une fois que le tirage au sort est fait, qu'on dit, puisque au départ, il y a une liste grande, et après, au sein de cette liste grande, on tire au sort ceux qui vont être jurés principaux et ceux qui vont être...
remplaçants.
On n'appelle pas ça, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Assesseur, non.
Voilà. Non, mais enfin bref, enfin, oui. C'est pas grave. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, les avocats de la défense et l'avocat général ont pouvoir de récusation, donc ils éliminent, non, vous. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont même pas à se justifier. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir, je ne sais plus, je crois que c'est trois chacun qui peuvent, de mémoire.
Ils ont une formation
ah, bien sûr,
avant.
Ils sont formés.
En tous les cas, quoi qu'il en soit, moi, de ces réponses-là, je me suis posé la question, parce que si c'est difficile de prendre déjà pour...
Je répondrai juste convention citoyenne pour le climat.
Ouais, bah, tu vas voir, voilà. Je continue
les
là-dessus.
Gens, les gens, même les gens qui ne s'intéressaient pas du tout ont participé. Quoi.
Mais ça, c'est tant mieux, et c'est vrai que c'est peut-être vers ça, mais tu vas voir, j'ai des réponses. Enfin, j'ai des réponses. J'ai mes réponses. Hein. Alors, je me suis posé la question suite à ces réponses, suite à toutes ces questions que j'avais pu poser. En ce qui concerne une personne donc à juger, c'est une chose. Mais alors, lorsqu'il s'agit de la gestion de notre pays, ben là, j'ai pas de réponse. Mais le désengagement citoyen d'aujourd'hui m'interpelle sur ce choix qui pourrait, au demeurant, être très, je dis, démocratique. Car, cher Bernard, si tu nous parles de la Grèce antique du 5e siècle à Athènes, berceau de la démocratie directe, on peut dire que le droit de vote était réservé aux citoyens masculins exclusivement et que cette citoyenneté était limitée à une classe restreinte de la population. Et quand je dis restreinte, il y avait des hommes de loi, il y avait des hommes politiques, il y avait des philosophes et il y avait des gens de bonne famille. J'ai essayé d'argumenter les deux points. C'est bien la Révolution française de 1789 qui a introduit des concepts de droit individuel et de gouvernement du peuple, et toujours sans les femmes et les gueux, puisque tu en parles aussi, Bernard. Une démocratie peut avoir des élus par suffrage universel, mais aussi des assemblées de citoyens tirées au sort pour discuter de questions spécifiques. Et là, le mélange des deux, moi, je trouve que... Bon. Le choix entre suffrage universel et tirage au sort dépendrait des valeurs et des objectifs spécifiques d'une société, ainsi que des mécanismes de contrôle et de responsabilité mis en place pour chaque méthode. Et non, pas par ces grands débats, bien souvent des magots, excuse-moi, Poupa, mais on a vu ce que ça donnait comme résultat, autour de
justement,
grands...
les résultats sont très bons. Après, c'est le gouvernement qui n'a pas tenu ses promesses.
C'est ça, c'est le gouvernement qui n'a pas tenu ce que le peuple
proposait. Moi, je vais
argumenter
un truc implacable face au soi-disant suffrage universel. Alors, d'abord, ça veut dire représentant un parti. On est d'accord.
D'accord.
Donc, déjà, ça exclut ceux qui n'adhèrent à aucun parti.
On est d'accord.
Non, ça exclut ceux qui n'adhèrent à aucun parti, déjà.
Oui, mais c'est ça, peut-être qu'il faut changer.
Ils ne peuvent pas avoir leurs représentants. Ensuite, les gens nommés par chaque parti, c'est le plus pourri de chaque parti, parce qu'en lutte interne, ils ont pris, c'est celui qui a fauché le plus de jambes de ses copains et copines qui s'est retrouvé candidat. Mmh. Donc le choix est vicié à la base, puisqu'on a le choix entre les plus pourris de chaque parti.
Alors c'est peut-être là, dans le fondement même de ce suffrage universel, qu'il va falloir changer.
Et quid de tous ceux qui n'ont pas l'accès, même les qui font des partis, je pense au NPA, à LO, à tous ces petits, entre guillemets, candidats, qui ne bénéficient d'aucune médiatisation, et donc...
ne les laisse pas émerger, fait. C'est vrai, j'en parlais dans la dernière chronique.
Voilà, puisque
donc on ne peut pas avoir de nouvelles têtes, quoi, en fait.
À la dernière... Bah oui, c'est... moi, je résumerais tout ce qu'a dit Bernard par une chose, c'est pourquoi les gars ciraient la branche sur laquelle ils sont assis.
Alors, je continue sur cette réflexion, puisque moi, j'ai essayé de finalement travailler. Quand je dis c'est un devoir, ça a été un vrai devoir, une vraie prise de tête. Et j'ai essayé d'aller voir aussi dans les, dans quelques ouvrages d'histoire, même scolaires, même Wikipédia. J'ai essayé de me, il y a même d'autres sites aussi d'historiens qui sont très intéressants. Et finalement, plus ça va et plus on a envie de mieux connaître l'histoire. Et je dirais, l'histoire du suffrage universel, c'est un parcours complexe, souvent marqué par des luttes pour l'élargissement des droits politiques. Il mérite sans doute une révision, c'est ce que je te disais, qui serait inscrite dans une nouvelle constitution. C'est ça aussi, parce que là, comme tu dis, effectivement, aujourd'hui, on ne laisse pas la place à d'autres, à d'autres personnes qui pourraient être représentants du peuple.
Pour pouvoir écrire cette nouvelle constitution, si on procède à un vote au suffrage universel des membres de cette constituante, on sera sur la base de la constitution de 58 et donc on sera toujours coincé par la même chose. C'est-à-dire que ne ressortira qu'une chose qui découle de la constitution de 58.
C'est pour ça qu'il va falloir travailler dessus et que l'Assemblée constituante pourrait se servir de ce principe pour pouvoir aller vers une nouvelle constitution avec des gens issus du peuple.
Mais c'est pas possible, puisque si tu veux y lire, écoute bien ce que je te dis, c'est irréfutable. Si tu veux faire une assemblée constituante élue, on est sous le statut de la Constitution de 58. Donc, on respectera le suffrage universel tel qu'il est conçu. Donc, on va se retrouver avec les mêmes personnes que celles qui sont à l'Assemblée nationale pour créer cette constituante. Et donc, il ressortira la même chose que ce qu'on a déjà.
Alors du coup, on n'a pas de porte de sortie par rapport à ça, on est tout le temps...
La seule chose, c'est le tirage au sort, c'est d'instaurer...
C'est un problème qui se mord la queue, là.
Voilà, alors je rappelle juste...
Mais le tirage au sort, qu'est-ce que ça... c'est pareil.
Mais non, ça représentera... c'est la courbe de Gauss, c'est des statistiques, c'est-à-dire que ça représentera la France telle qu'elle est. Le tirage au sort, c'est...
mais c'est pas dans notre constitution.
Ah non, c'est pas dans...
Donc ce sera pareil.
L'Assemblée constituante n'est pas dans la Constitution non plus. Ce serait un fait du prince.
Donc c'est peut-être là qu'il va falloir faire un tirage au sort. On pourra faire une Assemblée constituante avec des citoyens qui pourraient être tirés au sort.
C'est ce que je pense. Après, je rappellerai, comme tu l'as très bien dit, c'était pas du vrai suffrage universel, mais le premier président de la République française élu au suffrage universel, au pseudo, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais c'était le suffrage universel pour les hommes. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous les hommes, il n'y avait pas besoin de payer d'impôts et tout. S'appelait Louis-Napoléon Bonaparte. Et quelques années après son élection, il a fait un coup d'État, il est devenu empereur. Voilà. C'est Napoléon III, hein, c'est Napoléon le Petit.
D'ailleurs, j'en avais parlé dans une de mes chroniques quand je faisais un petit peu plus d'histoire.
Mais c'est le premier président de la République élu au suffrage universel en France.
Et justement, je suis revenue donc sur ce suffrage universel pour qu'on rééclaircisse tout ça, parce que je pense qu'il faut encore qu'on réfléchisse tous ensemble pour trouver une solution, une sortie... de sortir du carcan dans lequel on est. Donc, je reprends. De nombreux pays européens ont progressivement élargi le droit de vote. Cela a souvent été un processus graduel, marqué par des réformes successives. Les réformes électorales se sont élargies au fil des siècles et ont donné le suffrage à un plus grand nombre de citoyens. De nombreuses démocraties occidentales ont adopté le suffrage universel, masculin, puis le suffrage universel féminin, qui a été accordé aux femmes grâce à des luttes citoyennes. Petit rappel, la France a accordé le droit de vote des femmes en 1944 et en Suisse en 1971. Je rappelle juste quelques dates parce que finalement, tout ça n'est pas si vieux. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays ont élargi leur droit de vote, reconnaissant l'importance de la démocratie et de l'égalité des droits. Cela a conduit à une tendance mondiale vers le suffrage universel et de son élargissement pour inclure alors les jeunes adultes. Donc on a pu voter à 21 ans, puis à 18 ans, peut-être à 16 bientôt. Des minorités ethniques aussi ont pu, dans certains pays, voter. Des autochtones qui ont eu le droit de vote. Le suffrage universel est généralement considéré comme un principe fondamental de la démocratie. Alors... moi, je me suis arrêtée sur le suffrage universel. Attention, c'est pas pour ça que je suis contre le tirage au sort. Mais pour moi, c'est un mélange des deux. Parce que je continue. Dans une démocratie, le peuple est considéré comme la source ultime du pouvoir politique. Cela signifie que les dirigeants et les institutions gouvernementales tirent leur légitimité du consentement et du soutien du peuple. Et c'est peut-être ça que certains politiciens, en tous les cas aujourd'hui, affublés de super pouvoirs, ont oublié ou alors ne voudraient plus. Les élections sont l'un des mécanismes par lesquels le peuple exerce sa souveraineté. La souveraineté populaire, qui a bien du mal à se faire entendre aujourd'hui. La participation active du peuple est essentielle pour maintenir un corps politique sain. Participation électorale ? Si en Belgique, vous n'allez pas voter, vous avez le droit à une amende. Et si...
une amende ridicule au niveau...
ça fait rien, t'as le droit à une amende.
C'est pour ça que
et si on proposait
pas.
Alors un chèque de 100 euros aux Français pour qu'il aille voter ?
Eh bien, ça s'appellerait de l'achat de vote.
Eh bien, voilà.
C'est justement le maire de Saint-Jory est mis en examen pour cela, Saint-Jory, voisin du
Tarn-et-Garonne.
Il n'y avait
pas aussi...
non, il avait, aux élections, il offrait des bons d'essence de 50 euros.
Voilà.
Et comme par hasard, les gens, c'était ceux qui allaient voter pour lui, quoi.
Enfin, je rigole, en fait. Je rigole. Mais finalement, La prise de parole dans l'espace public, la protestation pacifique et la participation élevée des citoyens, plus le corps politique est représentatif et plus il a de chance de
Alors,
se faire entendre.
Justement, on est face à une crise qui est née en grande partie de 2005.
Et depuis les Gilets jaunes
Non, mais depuis 2005.
Ah, depuis 2005, depuis le vote pour le refus de...
C'est-à-dire, on a une désaffection. Pour que les représentants soient les représentants du peuple, or le peuple lui-même ne va plus voter.
Oui.
Donc, c'est bien beau de dire il faudrait que le peuple... Non, le peuple n'ira plus voter parce que le peuple n'a plus confiance.
Il a perdu confiance. Il n'a plus sa place. Voilà. Il n'a plus sa place. Mais plus ça va et plus il la perd sa place. On décide tout pour lui à travers des traités.
Comme il le fait
après,
très bien remarquer.
Après, on est dans la contestation parce qu'on ne veut pas un maire Rassemblement National ou parce qu'on ne veut pas un député Rassemblement National ou on ne veut pas un député comme ci ou un député comme ça. Alors attends, si tu laisses les autres voter, tu assumes dans ces cas-là.
Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Preuve en est, il y a eu jusqu'à 1,5 million, voire 2 millions de personnes dans les rues pour la réforme des retraites.
Ah oui.
C'est la preuve que le peuple...
peut se remobiliser.
Il se remobilise quand on s'adresse... Oui. Quand il y a une chance qu'il ne va plus voter parce qu'il sait que de toute façon... on a eu un bipartisme, c'est intéressant, c'est le livre de Julia Cagé et Thomas Piketty qui parle très beaucoup de ça. On est revenu à une tripolarisation. Après des années de bipolarisation, on a une tripolarisation. Et on sait tous qu'à chaque fois qu'il y a eu tripolarisation en France, ça a donné des choses instables.
Oui, donc... Finalement, on est dans cette période.
Exactement. On est en pleine période instable, puisque quand on voit que le budget va être encore voté grâce à un 49-3, que tout se fait à l'insu même du peuple, puisque quel que soit son avis, je rappelle quand même pour la réforme des retraites, il y avait 93% des salariés qui étaient contre cette réforme. Mmh. 93% et elle a lieu quand même.
Mmh.
Ça veut dire le peuple se trompe pas quand il cesse d'aller voter.
Non, et surtout
il se trompe pas. Il sait très bien que son avis, il compte pas. Donc, c'est pour ça que on est dans une escroquerie puisqu'on est soi-disant en démocratie représentative. Or, cette représentation ne représente plus le peuple.
Plus le peuple, exactement. Alors ça, je sais pas si c'est bien apparu dans mon exposé aussi à moi, dans ma réponse à Bernard, parce que je pense que le peuple n'est plus représenté et le peuple ne se retrouve pas, même à travers des politiques, même à travers nos politiques de gauche, même à travers le politique en général, le politique.